vois pas pour l'instant de rupture, d'évolution majeure dans l'opinion. Je pense que le monde d'après en Russie ressemblera plutôt au monde d'avant. En tout cas, que ça va accentuer des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Or, les tendances à l'œuvre, c'était une érosion lente mais assez visible du pouvoir, ce qui est assez naturel au bout de 20 ans d'exercice du pouvoir.
On parle d'un risque social quand même en Russie. Alors, il y a eu un mois de chômage payé par l'État, notamment pour les fonctionnaires, en tout cas pour les fonctionnaires. On dit quand même qu'il y a une entreprise sur trois qui risque de faire faillite. Quelle est la réponse de Poutine à ce risque social et est-ce qu'elle est satisfaisante?
Alors, effectivement, il y a un risque social qui lui provient du fait qu'en Russie, à la différence de beaucoup de pays d'Europe occidentale, il n'y a pas vraiment de filet de sécurité. Et donc, même le mois chômé censément payé est très théorique au-delà de la fonction publique. Donc, le choc peut être rapide et assez important. Alors, les réponses, il y a eu trois trains de mesures anti-crise, fin mars, en avril et le 11 mai, avec d'abord un fil rouge qui semblait être de ne pas puiser dans les réserves, qui sont très importantes. Et donc, les autorités russes ont plutôt privilégié les reports de charges, les exemptions, mais sans décaissement, ou en tout cas des décaissements limités, ce qui lui a valu des critiques, y compris d'économistes libéraux, plutôt soucieux de la dépense publique. Les choses ont commencé à évoluer le 11 mai avec la dernière série d'annonces avec des aides directes à la population, notamment aux familles avec enfants qui ont reçu des allocations exceptionnelles. Mais généralement, les mesures d'aide annoncées par le gouvernement sont un compromis entre les monétaristes qui ne voulaient en aucun cas toucher aux réserves, surtout dans un contexte de baisse, en avril en tout cas, des prix des hydrocarbures, et au contraire, les néo-keynésiens qui, eux, estimaient qu'il fallait, un peu comme en Occident, relancer vite et fort. Donc on a un plan qui était présenté le 1er juin, qui était un compromis entre ces deux écoles, et qui va plus loin que ce qui était initialement envisagé, mais sans atteindre les ordres de grandeur nécessaire pour relancer les choses. Donc c'est un compromis un petit peu hybride. Ce qui est intéressant de noter, c'est que d'un point de vue macroéconomique, les choses ne s'annoncent pas si catastrophiques que ça, en tout cas moins qu'en Occident, moins également que chez certains de ses voisins, comme en Ukraine par exemple, hein, et que les prix du pétrole qui avaient beaucoup baissé en mars-avril reviennent à un niveau acceptable pour la Russie. Et aujourd'hui, par exemple, les prix du pétrole sont conformes à ceux qui sont mentionnés dans le budget fédéral de la Russie. La Russie, elle a des fondamentaux macroéconomiques parmi les plus solides, parmi les émergents. Hein. Je rappelle que son taux d'endettement public est inférieur à 15% du PIB. Voilà, la Russie n'est pas endettée, mais la Russie dispose de réserves de change supérieures à 500 milliards de dollars. Donc elle peut affronter les chocs, elle affronte ce choc, mais ce qui surprend, et ce qui peut peut-être poser problème socialement parlant, c'est sa prudence.
Le référendum en Russie se rapproche. Quel projet défend là Vladimir Poutine et sur quoi mise-t-il pour gagner et éventuellement se maintenir au pouvoir?
Est-ce qu'il a encore un projet? C'est une vraie question. Je pense que l'objectif de toutes ces manœuvres compliquées qui sont arrivées au mauvais moment, finalement. Là, on voit que le Kremlin cherche à reprendre le fil de cette séquence politique qui a dû être interrompue à la mi-mars. Mais c'est une réforme qui est mal née, qui a été largement incomprise, qui a donné lieu à un coup de théâtre le 10 mars. Personne ne sait en réalité si Poutine avait en tête ce scénario-là au moment où il a lancé le processus le 15 janvier avec le remplacement du Premier ministre. L'objectif de Poutine, c'est de limiter les risques, les tensions liées à la succession de Poutine. Et donc, ce qui a été choisi, en réalité, c'est la solution de facilité, c'est de supprimer, sur le papier en tout cas, l'échéance 2024, qui commençait à rendre nerveux beaucoup d'acteurs à Moscou, c'est-à-dire le terme prévu du quatrième mandat de Poutine, dont on pensait que ce serait le dernier, ce sera peut-être d'ailleurs le dernier, on verra. Je pense qu'en réalité, le pouvoir se crée beaucoup de problèmes, il se crée des problèmes à court terme avec ce référendum, qui ne sera pas simple, en réalité, et surtout, on ne fait que repousser l'échéance, c'est-à-dire que Poutine n'est pas éternel, et tôt ou tard, Poutine va quitter le pouvoir, et bien avant 2036, je pense. Et donc, la question de la succession, elle va se poser, et elle va se poser peut-être dans un contexte plus compliqué qu'elle ne l'aurait été en 2024.
Bon, en tout cas, pour vous, il s'agit de la succession de Poutine, c'est le problème.
Oui, je crois que ces grandes manœuvres sont liées à ça. Le problème 2024, et à l'impossibilité pour l'instant de trouver une solution satisfaisante, un compromis satisfaisant pour les élites qui, encore une fois, sont des élites très diverses et souvent en lutte interne. Et en tout cas, les élites craignent de miser sur le mauvais cheval. Donc, le plus simple, c'est encore de maintenir Poutine, sauf qu'encore une fois, c'est une fausse solution. Tôt ou tard, Poutine devra partir. Il y a des enjeux patrimoniaux extrêmement importants liés à tout ça. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup d'oligarques, publics ou privés, sont de la génération de Poutine et pensent aux intérêts de leurs enfants. Donc, il y a beaucoup d'intérêts liés à cette échéance 2024. Mais à court terme, c'est ce référendum qui risque de cristalliser certains mécontentements, même si les sondages montrent que probablement les opposants à Poutine ne vont pas beaucoup se mobiliser. Et l'idée de Poutine et l'espoir du pouvoir, c'est que les amendements sociaux, qui sont très importants, il y a plusieurs types d'amendements, des amendements sociaux, avec effectivement l'inscription dans la Constitution, par exemple, de l'indexation des pensions de retraite, etc., etc., des choses qu'on trouve assez rarement dans les constitutions des pays. Donc ce sont des signaux très forts. Il y a également des amendements, je dirais, de type historico-sociétaux, civilisationnels. Et puis il y a, pris sur le gâteau, cet amendement qui vise à annuler les mandats antérieurs. Donc le pouvoir pense, espère, mobiliser son électorat sur les amendements sociaux pour faire passer le reste. Le plus difficile sera moins d'atteindre un score positif important que d'atteindre une participation supérieure à 50%.